Vous écoutez RTL.
7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL ce matin. Le Premier ministre a lancé la réforme de la SNCF hier et pour la vendre, entre guillemets, il a en gros expliqué que rien ne va à la SNCF. Les cheminots se sentent humiliés. Laurent Berger, pour la CFDT, a une formule forte ce matin dans les échos. Je ne laisserai personne cracher à la figure des cheminots. Pourquoi avoir présenté les choses de façon aussi négative ?
C'est la situation qui est négative et personne n'a été humilié. Et s'il y a quelque chose qui est désastreux en France, c'est la façon dont la mobilité fonctionne et particulièrement les chemins de fer français. Mais tous les auditeurs qui écoutent RTL, qui prennent le matin le TER pour l'Île-de-France ou les régions, voient bien que ça ne fonctionne pas, que les trains sont en retard, que les investissements n'ont pas été faits depuis des dizaines d'années et que manifestement, il y a un problème structurel. Moi, depuis que je suis adolescent, à la fois on aime le train, on prend le train, c'est en plus un magnifique moyen de transport populaire et écologique par ailleurs, et par ailleurs depuis que je suis adolescent on me dit que ça ne marche pas.
Mais c'était indispensable au moment où on encourage les cheminots à changer, à modifier, à se transformer, de dresser un tableau à ce point catastrophique, de la flinguer comme me l'a dit un cheminot hier.
Non mais ce qui est indispensable...
Le Premier ministre a flingué la SNCF hier. C'est ce qu'il a reçu.
La vérité et avoir des actes courageux. Depuis, une fois encore, je suis ministre aujourd'hui, j'ai 35 ans, depuis que je suis adolescent, ça ne marche pas, la SNCF, au sens où la dette s'accumule. Voilà une entreprise qui a des dizaines de milliards de dettes, qui chaque année en produit 3 milliards supplémentaires. Voilà quelque chose, si j'ose dire, qui touche les Français, le train. Tout le monde est attaché à sa gare, tout le monde est attaché à sa ligne ferroviaire, tout le monde est attaché effectivement à ses voyages en transport, que ça lui rappelle des souvenirs, ça lui permet d'aller travailler, et qui ne fonctionne pas. Alors soit on fait comme avant, soit on fait le statu quo, soit on passe le stock de dette, les difficultés, la non-ouverture à la concurrence à nos successeurs, soit ce qu'a fait Édouard Philippe, on est courageux et on dit la vérité aux Français.
Alors, dire la vérité, donc réformer, on va prendre quelques éléments évidemment les plus spectaculaires de la réforme. D'abord, la fin du statut des cheminots. Une concertation va s'ouvrir. Ce qui est acquis pour le gouvernement, c'est l'extinction à terme du statut.
Oui, c'est pas extrêmement nouveau pour ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire pour les nouvelles personnes qui aujourd'hui rentreraient à la SNCF, puisque la SNCF doit évidemment continuer à recruter. Aujourd'hui, elle continue à recruter à statut, c'est-à-dire qu'elle est encore comme les entreprises publiques d'avant. Si je prends par exemple la Poste, a continué à être un grand service public, et s'est d'ailleurs régénérée, a fait face à des défis incroyables, notamment la baisse totale du nombre de courriers. Et elle continue à recruter la Poste, à part qu'il y a des gens qui sont en statut parce que c'est le contrat moral que l'État, que l'entreprise publique avait avec ces personnes. Effectivement, pour les personnes nouvelles.
Et à partir de quand?
Donc ça n'a rien de révolutionnaire.
À partir de quand n'y aura-t-il plus d'embauche sous le statut?
Là, nous ouvrons à la fois la concertation et en même temps le Premier ministre a annoncé la méthode, c'est-à-dire à la fois des ordonnances et un projet de loi. Nous avons la possibilité cette année de travailler à ça avec les syndicats.
Donc avant la fin de l'année, par exemple, c'est possible, une fois que la loi sera votée.
Mais le principe de la concertation, c'est justement qu'on en discute.
Donc d'accord, mais ça peut être dès 2018 les premières embauches à proprement parler.
Moi, personnellement, je pense que c'est le plus tôt possible, puisque c'est une entreprise qui perd 3 milliards chaque année. La SNCF n'a pas été créée pour les cheminots. Elle n'a pas été créée pour les ministres. Elle n'a pas été créée pour les commentateurs. Elle a été créée pour les Français, pour que les trains roulent. Et pour que ces trains roulent et pour que les gens puissent le prendre sans être en retard. Moi, je connais les gens de l'Oise. J'étais vice-président au transport de la région Hauts-de-France. Il y a des gens dans l'Oise qui travaillent tous les jours à Paris, et ça existe dans plein de départements, et qui aujourd'hui vont quitter leur famille, leurs amis, leur maison, parce qu'ils ne peuvent plus, à Clermont, à Nogent, à Beauvais, prendre chaque jour un train qui n'a pas une demi-heure, trois quarts d'heure de retard.
Et ça c'est toujours une façon de prendre l'opinion à témoin, finalement.
Bah,
Le Premier ministre a dit il faut oser la réforme que les Français savent nécessaire. Sous-entendu, on ne peut pas y couper, vous les cheminots, vous avez des privilèges, il faut que ça cesse.
Mais ce n'est pas une question que les cheminots ou pas des privilèges. Encore une fois, les chemins de fer français, ils n'ont pas été créés pour les cheminots ni pour les ministres, ils ont été créés pour les Français. Ouais. Est-ce que ça marche, aujourd'hui?
Non, mais c'est pas à cause des cheminots que ça ne marche pas.
C'est tout un ensemble de choses.
C'est à eux que vous demandez.
À commencer par l'État. Vous savez combien les Français, combien vous, combien moi, combien chacun des Français paye pour SNCF, qui prennent ou qui ne prennent pas le train? 340 euros. Chaque année, nous payons 340 euros parce qu'il faut faire fonctionner une société qui ne sait pas améliorer, parce qu'elle n'a pas fait les investissements nécessaires, parce qu'on ferme des lignes chaque année, et parce qu'on a parfois des accidents, comme c'était le cas malheureux de Bretigny, parce qu'on n'a pas été capable de faire ce que nos amis allemands, par exemple, ont fait.
On sent
quand j'étais adolescent, on disait qu'en Angleterre, c'était quelque chose qui ne marchait pas. Hein, c'était la démonstration absolue que ça ne marchait pas, le train.
C'était
qu'il y avait des
exemple.
Accidents. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà allé en Angleterre prendre le train ? Est-ce que vous avez vu à quel point les choses fonctionnent ? Que les trains, en général, partent à l'heure ? Qu'il y a un service qui est aujourd'hui fait ? Parce qu'il y a une révolution qui a été faite en Angleterre. Et aujourd'hui, la pauvreté, c'est les chemins de fer français, c'est pas l'Angleterre.
Vous parlez du statut, j'aimerais y revenir une seconde. Est-ce que le changement de statut, est-ce qu'il faut le prendre sous un angle juridique stricto sensu, c'est-à-dire qu'on met fin à l'emploi garanti, au déroulé de carrière, ou est-ce que ça sera aussi terminé de ce qui relève des accords d'entreprise, c'est-à-dire les primes, les billets gratuits, enfin les avantages qu'on met souvent en avant, dont bénéficient aujourd'hui les cheminots. Ce sont les deux qui vont s'arrêter ? Les deux aspects ?
D'abord, il y a un chef d'entreprise de la SNCF, et ce chef d'entreprise que j'ai encore reçu hier, après les annonces, va faire ce travail de concertation à l'intérieur de son entreprise.
Bon, alors c'est ça qui est à négocier, c'est ça qui est dans la concertation.
L'État ne va pas travailler à la place du chef d'entreprise.
Alors je vous le demande, c'est ça qui est dans concertation.
Ce que fait l'État, c'est dire d'abord, nous ne fermons pas les petites lignes.
Mais attendez, vous passez d'un sujet à un autre.
Mais c'est ce qui est plus important.
Oui, mais on va y revenir.
Non, parce qu'il faut au petit bout de la lorgnette, Madame Martichoux.
Le statut des cheminots et leurs avantages, et la fin, c'est pas le petit bout de la lorgnette. C'est très important.
Je suis désolé de vous dire que le plus important, ce n'est pas le statut des cheminots ni leurs avantages.
C'est le plus spectaculaire, on va parler de la dette dans un instant. Juste là-dessus.
Bah, le plus important, c'est ce qu'on fait.
Ce qui est sur la table, c'est tous les avantages aujourd'hui, juridiques ou pas, des cheminots, c'est dans la concertation.
Mais Madame Martichoux, encore une fois, excusez-moi de vous dire que je n'ai pas la même opinion que vous. Le plus important n'est pas le statut des cheminots. Le plus important, c'est est-ce qu'on ferme ou pas des petites lignes. Et c'est le Premier ministre qui a répondu non. Pourtant, c'était dans le rapport Spinetta, parce qu'on va garder effectivement un avantage d'aménagement du territoire. Et à ce titre, les chemins de fer français sont de l'intérêt général et pas simplement du fonctionnement d'intérêt privé. Est-ce qu'on va révolutionner l'entreprise ? La réponse est oui, on va en faire qu'une seule, une société. Comme ça a été dit, c'est une société nationale des chemins de fer français, la SNCF. On va retrouver quelles sont ses initiales. Est-ce que par ailleurs,
vous
on va...
Vous ne fermez pas les petites lignes puisque vous en parlez vous-même, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne fermeront pas. Ça veut dire, nous, la SNCF, on ne le fait pas, à charge pour les collectivités locales de regarder ce qu'elles veulent garder ou pas.
Le Premier ministre a dit que tous les contrats de plan État-région, et je les ai négociés dans ma région jadis, tous les contrats de plan de l'État-région seront honorés. Et dans le contrat de plan État-région, l'État met une partie, la région ou les collectivités locales mettent une partie, il n'y aura pas de fermeture de petites lignes. Que demain, il y ait un réseau qui vit et qu'on décide d'ouvrir ou de fermer.
Oui.
Il y a des moments, dans ma région, on a décidé, parce qu'il n'y avait qu'une seule voie, d'en faire deux, pour éviter que les trains soient en retard, parce que s'il y a un aller et que le train est en panne, eh ben, le retour est cassé, puisqu'il n'y a pas de voie. Bon, eh ben, on peut le faire, et peut-être qu'on peut fermer d'autres lignes, mais ça c'est une discussion évidemment avec les élus régionaux, et ça se passe chaque année, et depuis 40 ans.
Et ce seront aux régions de le décider ou pas.
Non, mais ce sera avec l'État, avec la SNCF, et il y aura, deuxièmement, excusez-moi de vous le dire, une ouverture à la concurrence. Voilà des années. C'est M. Fabius, un gouvernement de gauche, qui a négocié l'ouverture à la concurrence. L'ouverture à la concurrence a été décidée, elle n'a jamais été transposée dans le droit français. Les présidents de région le souhaitent. Les Français se demandent si ça marcherait mieux avec une concurrence.
Gérald Darmanin, est-ce qu'on peut parler de la dette ? Parce que vous êtes le ministre des Comptes publics.
On peut parler de la dette.
Ça vous concerne évidemment au premier chef.
Ça nous concerne tous, en l'occurrence.
Il n'a presque rien dit, finalement, Premier ministre, hier, de la dette. C'est un oubli ?
Non, parce que ce n'est pas un préalable, la dette.
Ben, c'est pas ce qu'Emmanuel Macron avait dit aux cheminots, Gérald Darmanin, si vous me permettez, début juillet. S'est adressé à eux et il leur a proposé que l'État reprenne la dette en contrepartie, en échange de la réforme. Il l'avait dit à ce moment-là. On n'en a plus entendu parler.
Si je peux me permettre, en juillet, j'étais déjà ministre des Comptes publics. Et s'agissant d'une dette qui avoisine 50 milliards d'euros, je pense avoir été particulièrement informé et au courant de ce qu'a dit le président de la République, qui par nature et par définition a raison. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, il a dit, comme a dit le monsieur le Premier ministre, et comme je l'ai dit à Guillaume Pépi, la dette n'est pas un préalable. Pourquoi ? Parce que chaque année, la SNCF produit entre 2,5 milliards et 3 milliards de dettes. Et quand bien même nous effacerions la dette d'un coup, une baguette magique, nous recréerons dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, le même stock de dettes si nous ne changeons pas profondément la société. Donc d'abord, il y a la transformation de la société. On va se poser des questions dans la façon dont cette société fonctionne, si effectivement ce projet de loi, quand il sera adopté, quelle sera l'intégralité, si je veux dire, des négociations, comment les ordonnances vont être prises, comment les cheminots travaillent en concertation avec le gouvernement et avec l'entreprise à la transformation de leur métier, parce qu'il y a aussi la rigidité, il y a des horaires de travail, il y a tout un tas de fonctionnements qui est effectivement compliqué, complexe et qui coûte cher. L'entreprise, comment
autrement
nous, la concurrence.
Dit, vous donnez le bâton avant la carotte.
Et nous,
vous préciserez à la fin du mandat si l'État, oui ou non,
et nous nous poserons la question. Mais le problème n'est pas le stock de dette, le problème, c'est 3 milliards produits chaque année.
La CGT prévoit un mois de grève, c'est-à-dire plus longue qu'en 1995. 95, c'est une espèce de référence absolue dans le domaine des conflits sociaux. Dans cette hypothèse, qu'est-ce que le gouvernement fera si les Français n'en peuvent plus de ne pas avoir de train ?
Je ne crois pas un seul instant que des syndicats, y compris la CGT, qui sont responsables, qui connaissent leur outil de travail, qui aiment leur métier, sont capables de prendre en otage les Français pendant de très longues semaines. Les Français, vous savez, en plus, par ailleurs, les Français en général, mais les usagers en particulier, ils sont tout à fait conscients qu'il y a un sujet à la SNCF, que c'est une entreprise à sauver. Et 95...
Ça, vous l'avez dit, hein, l'opinion, l'appel
mais
à l'opinion...
Martichoux, en 95, je me rappelle, alors moi, j'allais à pied, en l'occurrence, puisqu'il n'y avait pas de métro ou
de bus. Beaucoup de souvenirs avec les trains ce matin.
Mais beaucoup se souviennent de 95. Je crois qu'on n'est pas du tout dans la même ambiance.
On n'est pas du tout dans la même ambiance.
Ce que fait le gouvernement, c'est qu'il dit la vérité. Il ne raconte pas des garnouzettes, comme dirait ma grand-mère.
Des quoi ?
Des garnouzettes.
Des histoires.
Dans le Nord, pour dire que c'est des histoires, effectivement. Il dit la vérité. Il a pris le temps de la concertation, voilà des mois qu'on en parle. Et aujourd'hui, il a proposé une méthode. Et non seulement il a proposé une méthode, mais une méthode courageuse. Ce que n'ont pas fait tous les prédécesseurs de M. le Premier ministre Édouard Philippe depuis des dizaines d'années. Parce que peut-être qu'à l'époque, l'opinion n'était pas prête. Aujourd'hui, elle est prête.
Gérald Darmanin, si vous me permettez avant qu'on se quitte, une femme relate avec beaucoup de précision la relation intime qu'elle a eue avec vous à plusieurs reprises. Elle a déposé plainte pour abus de faiblesse. Une enquête préliminaire est ouverte. Mediapart a publié des extraits du PV d'audition. Sur BFM, vous aviez dit ne pas la connaître, cette plaignante. C'est toujours le cas ?
Alors, Madame Martichoux...
Vous n'avez pas de souvenir de cette jeune femme qui porte plainte contre vous ?
Dans la pseudo-première affaire, j'ai eu le droit à une page entière d'un grand quotidien du soir, vous avez posé la question sur cette pseudo-affaire tous les jours à tous vos invités.
Vous écoutez RTL ?
Et ça m'arrive quand je ne suis pas chez vos concurrents ou lorsque je ne fais pas autre chose. Mais j'espère que vous m'en voulez pas. Cette affaire a été classée. Elle a été classée deux fois en huit mois.
La première affaire, si on
exactement.
Peut dire.
Je remarque que la semaine dernière, vous ne l'avez pas posé, mais c'est tout à fait normal, la même question sur le classement de cette affaire. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent quand les enquêtes préliminaires s'ouvrent et qu'il y a peu de gens qui écrivent quand les enquêtes préliminaires se ferment. Je vais laisser la justice, comme la première fois, travailler le plus sereinement possible. Mais vous savez, ça me fait penser, parce que vous parliez de Laurent Wauquiez tout à l'heure, et puis...
Tout à l'heure, dans la présentation.
Ça me fait penser à une jolie phrase du président Pompidou, qui avait été jadis, mais sans comparaison possible, calomnié également. Il avait dit cette phrase incroyable, c'est que le président Pompidou était un poète. « J'ai perçu chez deux ou trois le vilain frémissement des narines, sentant venir les boules puantes et se délectant des odeurs d'égout. » Ben, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser que finalement, dans un contexte très particulier, il y a des gens qui aiment bien voir venir les boules puantes et qui se délectent à l'idée de sentir des odeurs d'égout.
Vous me permettez une deuxième question, je fais
bien
mon
sûr.
Travail. Est-ce que vous avez profité de la situation de cette jeune femme qui demandait un logement social ?
Je n'ai jamais abusé, ni légalement, ni moralement, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je vais le redire avec plaisir, de qui que ce soit, et surtout pas d'une femme.
Hier, Le Monde titrait l'épine d'Armanin, c'est-à-dire, sous-entendu, vous êtes susceptible de freiner, gêner le gouvernement, c'est la dernière question.
Bah, ça, les Français qui me voient, vous-même qui êtes commentateur, le Premier ministre et le Président de la République sont les plus à même de juger, mais j'ai pris avec beaucoup de distance désormais à lire le journal Le Monde.
Merci Gérald Darmanin d'avoir été ce matin sur RTL.